What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 13e numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et autour de la table de l'antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien, Constance Jamet du Figaro. Hello Constance.
Salut.
Léo Soessanto de Plus de Séries. Salut Léo.
Salut Pierre.
Et Éric Bouche de Téléstar. Bonjour Éric.
Salut Pierre.
Au menu cette semaine, une des séries les plus rares de ces dernières années, 13 épisodes en 7 ans de diffusion, dont la quatrième saison est en cours de diffusion sur France 4. C'est le jeudi soir, j'ai nommé Sherlock, relecture moderne des aventures du détective de Sir Arthur Conan Doyle. Une série à part, certainement ambitieuse et novatrice, mais qui, attention, je cherche les ennuis dès mon intro, commence peut-être à fatiguer. On en parle tout de suite.
Something's coming. Maybe it's Moriarty. Maybe it's not. Something's coming.
We brought you back to deal with this. What are you going to do?
Whatever's coming, whatever he's lined up, I'll know when it begins.
Enlighten me.
We're going to have endless fun, Mr. Holmes, aren't we?
No, not endless.
For Christ's sake, Sherlock, it's not a game!
Oh, no!
You say you know what he's going to do next. Get out of my house, you reptile.
Revenons un peu en arrière, chers amis, avant de débattre de ce Sherlock-là, et je vous le dis tout de suite, on fera quand même un peu attention aux spoilers, comme on dit dans le langage maintenant accepté de tous, évidemment, puisque à l'heure française, on n'a vu qu'un épisode de cette quatrième saison de 3 épisodes, donc on va faire gaffe à pas vous balancer la fin et tout ce qui s'y passe. Donc, causons de Sherlock Holmes tout court, si vous voulez bien, pour commencer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il est un héros de série si populaire? Parce qu'il n'y a pas que Sherlock de la BBC, il y a aussi Elementary sur CBS, on en parle beaucoup moins. C'est peut-être moins événementiel, pour dire les choses poliment, mais pas seulement un héros populaire, aussi la source de pas mal d'autres flics. Évidemment, le plus évident, c'est Dr House, qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle pas House pour rien, avec un joli H comme il faut. Chers amis, qu'est-ce qui fait que Sherlock Holmes est si populaire aujourd'hui, Constance?
À l'époque où Doyle a écrit, il était l'héritier des romanciers feuilletonistes, et je pense que dans ses nouvelles, il y a toutes les recettes qui sont très utiles pour les feuilletons d'aujourd'hui. Ça n'a pas changé qu'on soit en roman ou en télévision. On a un duo qui ne devrait jamais marcher ensemble, les contraires s'attirent. Ensuite, il y a l'humour très britannique. Je pense que c'est quand même une bonne composante.
Qui était déjà dans les bouquins de Conan Doyle.
Ouais. Et peut-être aussi dans le cas de Sherlock, c'est aussi vrai dans le cas de Doctor House, c'est quand même une logique très cartésienne qui, pour les gens qui aiment la science, est peut-être très rassurante sur l'humanité et sur la possibilité de trouver la vérité.
Léo.
Oui, Constance en parlait. On en parlera sûrement après. Il y a une excentricité anglaise chez les personnages que tout le monde adore.
Qui pourtant était vachement adapté aux États-Unis. Hein.
Aussi, ouais. Ouais, notamment avec Basil Rathbone dans les années 30-40. On en reparlera aussi. Non, il y a aussi surtout quelque chose d'éternel chez Sherlock. Tu parlais de flic. C'est pas un flic, c'est un détective consultant. Donc c'est pas un fonctionnaire de police, c'est quelqu'un qu'on vient voir comme un client, comme une voyante, comme un consultant en ressources humaines. Donc c'est quelqu'un qui offre des services et qui les résout.
Et ça a été un petit peu la matrice de nombre de séries ces dernières années, hein, mentaliste
et même avant, donc Columbo et tout ça. Mais je pense que ça correspond à quelque chose d'assez éternel et qui ne change pas. C'est ce que disait écrivain Borges, c'est que les détectives, la fiction de détective, enfin de policière, enfin résout, enfin donne de l'ordre au chaos, quoi. Donc chaque époque est faite d'incertitudes et le détective est là pour ramener de l'ordre, ramener de la raison, ramener la vérité. Et surtout, en cette période de fake news et tout ça, c'est pas mal d'avoir des détectives comme ça, très rationnels.
Eric, Sherlock, matrice du détective, pardon, j'ai dit flic, mais bon, c'est vrai qu'on fait des généralités modernes quelque part. C'est pas un hasard si on le retrouve aujourd'hui à ce point-là partout.
Bah, c'est la victoire de l'esprit sur le muscle, en fait. C'est d'abord, c'est parce que c'est un peu le premier à être devenu si populaire à la fin du 19e siècle, même si c'était pas vrai premier, mais c'était le premier si populaire. Et c'est vrai que lui domine par la réflexion, contrairement à d'autres policiers, que Starsky Hutch, etc., où eux, c'est pas des grands cerveaux. Et donc, il y a en effet tous les Columbo, etc., dont on a parlé, qui sont les directs descendants de Sherlock Holmes.
Alors, Léo, question piège, c'est toi qui as l'air d'être le plus érudit en histoire. S'il fallait soulever les Sherlock, disons que nous avons parmi les auditeurs des gens qui adorent la série et qui se disent, tiens, je vais aller voir les autres Sherlock, lesquels aller voir, sauf évidemment celui de Guy Ritchie.
Au cinéma, il y a un film que j'aime beaucoup qui est La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder.
Alors, sur une tonalité, là, pour le coup,
beaucoup plus, on va dire, plus mélancolique, mais qui, il y a une certaine tristesse dans le personnage de Sherlock, qu'on voit un petit peu dans la série de la BBC d'ailleurs.
On voit même beaucoup dans cette saison 4, hein, voilà, où il est beaucoup question de l'état psychologique de Sherlock.
À la télévision, il y a la fameuse version classique de avec Jeremy Brett, donc qui est censée être la version la plus fidèle, aux écrits de Conan Doyle. Moi, j'ai une passion secrète pour les improbable, genre Roger Moore, Gary Hagman.
Il y avait un dessin animé, je ne dis pas de bêtises, moi, dans ma jeunesse.
Sherlock Hound, ouais, qui a été co-réalisé par Miyazaki. Donc, c'était un chien. C'était un Sherlock steampunk. Donc, c'était un chien. C'était un chien humanoïde qui poursuivait Moriarty, qui était un renard dans des machines volantes extraordinaires à vapeur.
Bon, alors, commençons à parler à Eric.
Il y a aussi le secret de la pyramide. Oui. Avec un young Sherlock Holmes qui était excellent, qui est plus de l'aventure, version un peu Spielberg. Oui. Et aussi élémentaire, mon Sherlock Holmes, qui était une espèce de parodie. Holmes était un acteur alcoolique et c'était Watson qui soufflait en fait toutes les répliques. Il y a avec Michael Caine qui faisait Holmes.
On parlait de Stephen King il n'y a pas si longtemps ici. Holmes, c'est aussi une de ces figures littéraires. Alors, je ne dis pas que Stephen King est un personnage, hein, mais qui a été repris et retordu et remis dans tous les sens. À mon avis, si on fait la liste, on doit avoir plus d'une centaine d'adaptations des aventures de Sherlock Holmes.
Je crois qu'il est dans le Guinness Book des records, d'ailleurs, comme le personnage le plus adapté.
Parlons de celui-ci, de ce Sherlock de la BBC, avant évidemment de rentrer dans les détails de la saison 4. Est-ce que c'est un Sherlock fidèle? La question est rhétorique parce que je crois que oui. Qu'est-ce qui fait qu'il est fidèle? Qu'est-ce qui fait que c'est un Sherlock qui s'inscrit pleinement dans une tradition peut-être de remake à l'anglaise? Léo.
C'est une trahison, mais c'est une trahison assumée en plus, totalement assumée par les créateurs, par Moffat et Gatiss, qui revendiquent le fait que ce soit vraiment basé sur les Sherlock Holmes avec Basil Rathbone des années 30-40, donc les adaptations contemporaines à l'époque. Donc c'était des films, des sériales, des feuilletons qu'on voyait au cinéma où Sherlock Holmes et Watson se battaient contre les nazis et les japonais, et avec un côté un peu plus feuilletonesque, un côté un peu plus film d'action, film d'espionnage, avec beaucoup plus rythmé que les écrits de Conan Doyle, que Gatiss et Moffat jugent un peu chiant en termes de rythme.
D'ailleurs, Constance, chaque épisode est plus un agglomérat de romans.
C'est un composite de nouvelles. D'ailleurs, sur l'épisode spécial de Noël, c'était même un composite d'histoires qui n'ont jamais été racontées, qui dans les livres ce sont des simples allusions. Mais bon, même si c'est une adaptation qui en apparence trahit, en même temps, même avec le contexte moderne, ça reste assez fidèle à l'esprit de Doyle, et même dans certains cas, notamment dans la caractérisation du docteur Watson, c'est plutôt plus proche de ce qu'a fait Doyle, de ce qu'on a pu voir au cinéma. Ici, Watson, il n'est pas forcément le Benet qu'on a pu voir sur d'autres écrans et d'autres adaptations. Et ce qui est intéressant dans cette transcription au XXe siècle, c'est qu'on peut s'amuser à trouver les correspondances, la guerre d'Afghanistan au XIXe, les conflits afghans de nos jours, et tout ce jeu des 7 différences, c'est ça au départ qui, moi, dans la première saison, m'avait vraiment captivé.
Alors justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui fait que c'est devenu un tel phénomène? Parce que a priori, on l'a dit, il y a eu des centaines d'adaptations, c'est un truc très classique. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu cette série qui est extrêmement attendue, qui est un événement à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison?
Elle s'inscrit parfaitement dans les fictions de son époque. Déjà, il y a l'aspect soap qui a été énormément développé, parce que dans les nouvelles, leur vie privée est assez faiblement développée, c'est centré sur les intrigues, alors que là, c'est vraiment les personnages qui sont mis en avant par rapport aux intrigues policières qui passent finalement au second plan. Déjà, des fois, on comprend même rien du tout aux intrigues policières, à la résolution qui nous la montre.
Particulièrement dans cette saison 4, à mon sens, mais bon. Oui, c'est donc ça, c'est un problème. Enfin, donc pour toi, ça, c'est une des premières raisons, c'est que finalement,
Le mythe a été complètement modernisé pour le rendre plus vivant et en effet plus soap pour les spectateurs actuels.
Entendu comme ça, j'ai pas l'impression que c'est forcément un compliment, mais pour toi ça l'est.
Ça peut l'être. Hein.
Léo.
Il y a la sérialisation effectivement que Eric mentionne, mais il y a surtout la forme. Enfin, ils rendent excitantes les enquêtes avec cette grammaire visuelle, enfin ce montage hypercut, ces textos qui apparaissent à l'écran, ces informations qui apparaissent à l'écran.
Donc, et qui arrive à faire qu'un personnage assis dans son canapé, surtout Sherlock, finalement va être un personnage en action quasiment.
Et surtout, Constance. Oui. Ouais. Vas-y.
Vas-y, termine.
Non, mais en termes de déduction, effectivement, c'est plus moderne, enfin pour les spectateurs, et c'est plus entraînant, enfin c'est plus catchy de voir effectivement toutes ces infos, tous ces indices qui apparaissent à l'écran, même si tu comprends rien. Sherlock, c'est de la magie, enfin c'est du show off. C'est un mot qu'on répète souvent. C'est un illusionniste. Il te fait un tour, donc à la limite, faut que ce soit spectaculaire.
D'où une forme de frime finalement. Mais ça, on va reparler. On va en parler par rapport à la saison 4. Une dernière question globale par rapport à la série, c'est sa capacité à réinventer un personnage classique de la littérature. Alors je me lance. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas cette capacité-là. C'est-à-dire que c'est difficile pour les scénaristes français, les réalisateurs français, de saisir comme ça des figures vraiment majeur de notre littérature et de les moderniser et de sans peur finalement, là où les Anglais le font très bien. Stephen Moffat a fait Jekyll, de l'adaptation de Jekyll et Mr Hyde, juste avant de faire ce Sherlock. Constance,
en fait, on a essayé, nous, si vous vous rappelez, il y a une version des Liaisons dangereuses avec Catherine Deneuve, il y a eu une tentative de moderniser Rastignac, mais il y a longtemps, sur France Télévisions et TF1, et c'était très plat comme mise en scène. Et chez les Anglais, ils n'ont pas peur de réinventer ou de parodier. Moi, je pense même au costume drama très classique de Jane Austen ou adapté de Dickens. Dans les années 90, Andrew Davis, qui a signé L'Orgueil et Préjugé, qui a rendu célèbre Colin Firth, il a quand même très sensualisé le texte d'Austen. Il a revu la perspective du côté de Monsieur Darcy, pas seulement d'Elizabeth. Et 15 ans plus tard, il a aussi complètement réécrit Dickens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bleak House avec Gillian Anderson, qui avait un format soap. C'était des épisodes de 30 minutes. Et là aussi, c'est une manière de réinventer. Puis il y a eu des parodies ou des fanfics d'Orgueil et Préjugés que la BBC a mis en scène. Il y a une facilité, ils sont pas complexés par
oui,
rapport à l'héritage.
Oui, de toute façon, il y a une culture populaire au bon sens du terme, si j'ose dire, qui est extrêmement développée, et il y a pas de barrière ferme entre ce qu'on appellerait des grands classiques en France et quelque chose de beaucoup plus grand public. Eric.
C'est-à-dire que nous, comme on a 30 ans de retard à peu près dans les fictions par rapport aux Anglais ou aux Américains, on peut espérer que d'ici 30 ans, on saura adapter un Arsène Lupin, parce qu'on avait Georges Descrières, nous, à l'époque, d'Arsène Lupin. Mais peut-être que ça va évoluer.
On s'attarde tout de suite sur la saison 4.
What you're about to see is classified beyond top secret.
Is that quite clear?
Don't minute any of this. Once beyond these walls, you must never speak of it. A D notice has been slapped on the entire incident. Only those within this room, codenames Antarctica, Langdale, Porlock and Love, will ever know the whole truth. As far as everyone else is concerned, going to the Prime Minister and way beyond, Charles Augustus, are you tweeting?
No.
Well, that's what it looks like.
Of course I'm tweeting. Why would I be tweeting?
Give me that.
What? No, get off.
What are you doing? Get off. What? Give it here.
Après 3 ans d'attente seulement apaisée par un épisode spécial de Noël en 2016, Sherlock est donc revenu sur la BBC et évidemment sur France 4. Débattons-en un peu de ces 3 nouveaux épisodes en tâchant de ne pas trop les spoiler, comme toujours. Il y a donc 3 épisodes de 90 minutes avec 3 intrigues différentes. Mais est-ce qu'il y a un lien, une thématique générale, allez, au moins une thématique générale, chers amis, dans cette saison 4?
C'est la même thématique que depuis la saison 1, c'est l'humanisation, de Sherlock. Cette phrase d'inspecteur Lestrade dans le premier épisode de la saison 1, Sherlock Holmes est un grand homme, peut-être un jour sera-t-il un homme bon. Donc c'est, voilà, on assiste encore à ça, peut-être à la fin ou pas de l'humanisation de Sherlock, et c'est ça.
Là, dans cette saison, ils sont quand même plus confrontés à des traumatismes, des traumatismes qui viennent de leur passé, l'enfance de Sherlock Holmes qui ressurgit. Donc on sent qu'ils sont à un point culminant où ils doivent basculer vers autre chose ou rester tels qu'ils sont et ne pas réussir à changer. On sent que c'est quand même le point culminant. Et la série va se terminer là-dessus, d'ailleurs.
Parce que la saison d'avant, c'était les amours, plutôt. Enfin, en tout cas, il y avait une notion autour de Watson.
Le mariage de Watson, oui. Donc, c'était un peu le triangle entre Watson, Sherlock et puis et Marie, donc l'épouse de John.
Constance ?
En plus de l'humanisation de Sherlock, je trouve qu'il y a une réflexion aussi sur ce que c'est que la famille. Est-ce que la famille, c'est le lien du sang, ou est-ce que c'est le lien qu'on se construit plus tard?
Et donc l'amitié, finalement.
Oui. Ouais. Et comme dit Eric, c'est quand même une saison de psychanalyse enfin, hormis le premier épisode, il y a pratiquement pas de suspense policier. C'est qu'est-ce qui se passe dans un esprit quand il doit surmonter une épreuve, quand il est traumatisé. Et c'est plutôt Alice au Pays des Merveilles et Vol au-dessus d'un nid de coucou que Arsène Lupin ou Sherlock Holmes.
Alors, puisqu'on a posé les bases, maintenant critiquons. C'est notre job, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est très bien tout ça, c'est très ambitieux, mais qu'est-ce que ça donne? Alors essayons globalement, et puis après on s'arrêtera sur chacun des épisodes. Léo, je te sens dans les starting blocks.
Pas du tout. C'est contrasté, quoi. Donc ça commençait bien, et puis il y a ce dernier épisode un peu problématique, enfin dans le sens où il enfourne trop de choses, notamment des choses qui auraient qui auraient mérité à être un peu plus développées dans d'autres épisodes. En fait, il y avait pas assez d'épisodes dans cette saison pour rendre justice à ce qu'il voulait faire. Donc, et notamment cet arc psychanalytique que qu'Eric mentionne. Donc, il y a des choses, des détails du passé de Sherlock qu'on nous balance dans la gueule. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Voilà.
Constance.
En fait, moi, je suis un peu en désaccord avec vous. C'est plutôt l'épisode 2 qui m'a gênée, qui rompait le rythme pour moi.
Et pour moi, c'est le meilleur, mais vas-y.
Oui, donc, plutôt que de me taper un énième méchant mégalomane type Moriarty où j'en ai soupé pendant 3 ans pour savoir s'il était mort ou pas mort, j'aurais préféré qu'on scinde l'épisode 3 avec ce que l'épisode 3, si on peut le dire sans spoiler, c'est un énorme huis clos. Et moi, enfin, j'ai trouvé ça intéressant, mais pesant pour conclure la série comme ça, si c'est vraiment la conclusion qu'on veut lui donner. Et j'aurais préféré qu'on répartisse l'intrigue du 3 sur le 2 en m'enlevant le méchant mégalo.
Ouais, Eric.
Moi, elle m'a plutôt plu cette saison 3. Je trouve que
Ah oui, mais alors du coup, t'as vu la 3, on parle de la 4.
La 4, pardon, excuse-moi. Je trouve qu'elle détricote le mythe de Sherlock Holmes pour arriver en fait à une espèce de créature hybride complètement indépendante qui est complètement du coup dégagée du mythe de Sherlock Holmes de Conan Doyle.
C'est-à-dire, vas-y, creuse.
C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Elle s'émancipe complètement de son modèle dans cette quatrième saison.
Donc pour toi, on est presque plus dans Sherlock. Enfin, on est dans un autre Sherlock.
Exactement, ouais.
Un type qui s'appelle Sherlock Holmes, qui habite bien à Baker Street.
Mais on a l'impression que depuis le début, c'est son but, petit à petit, de détricoter le mythe.
Mais en fait, moi, je suis sorti de cette saison 4 avec un vilain mal de crâne, et pourtant, j'ai pas vu les épisodes les uns derrière les autres, parce que c'est là que je partage finalement le point de vue de Léo et Constance. Enfin, il y a trop de choses. Alors, que faire? Évidemment, c'est le format de la série. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. On va en reparler après. La rareté de cette série. Mais il y a cette impression que chaque épisode commence par une sorte d'enchaînement de fausses pistes, ou qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue qui démarre, pour qu'ensuite l'intrigue devienne un prétexte à creuser les personnages ou à développer une histoire ou plusieurs histoires. Et j'ai du mal à saisir la cohérence, mise à part dans le sous-texte, comme vous avez dit là, les histoires de famille, etc. Il se passe trop de choses. J'ai l'impression d'avoir vu une saison de 10 épisodes. Alors ça pourrait être une bonne chose. Le problème, c'est que tout ça est complètement entassé les uns sur les autres. Et j'ai l'impression que d'avoir regardé une série, c'est une expression qu'on avait employée pour Vinyl, je me rappelle à l'époque, où le mec qui l'a écrit a pris un truc, mais moi j'ai pas pris le même truc que lui, et du coup il est dans son trip, et j'ai du mal à suivre son trip, et du coup des fois je me mets à ricaner comme un type qui serait raide devant moi et qui serait dans son délire aux champignons, et que j'arriverais pas à comprendre, et que lui seul serait dans son délire. Je sais pas si je suis tout seul dans cette situation. Léo, je sens que tu réfléchis.
Est-ce que j'ai pris le même truc que toi? J'en sais rien. Non, je crois qu'il y a, le format commence à poser problème, effectivement, par rapport à ce que tu dis, et le fait que ça entasse trop de choses dans un épisode. Mais il y a dans chaque saison, il y a toujours un épisode où plein de choses arrivaient, s'entassaient. Enfin, je me souviens que le troisième épisode de la première saison ressemblait à Die Hard with a Vengeance. Donc, et en même temps, on aimait ça, quoi. Donc, on aimait le côté feuilletonnant. Trop millefeuille, presque trop jusqu'au boutiste, quoi. Mais je crois que là, il y a un effet d'assitude. On en est arrivé à un point où Sherlock aurait mérité plus d'épisodes.
Moi, je pense que tout ça, c'est voulu. Hein. Ce côté bordélique, le fait qu'on comprenne rien, etc. Petit à petit, au fil de la série, des saisons, il nous fait rentrer dans l'esprit chaotique de Sherlock. Et le fait que ça devienne complètement bordélique à la fin, c'est parce que son esprit est complètement bordélique. Donc ça part dans tous les sens. C'est un peu comme une série récente, la Legion.
Ouais, c'est ça, je veux dire.
Où ça devient complètement délirant, ça va trop vite pour le téléspectateur, mais c'est complètement assumé.
Sauf que Legion, je plane, or que Sherlock, je suis resté au sol. Sur cette saison, en tout cas. Mais encore une fois, qui aime bien châtie bien du jus de pomme. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça mon problème. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure, on disait que ça se la pète un peu, pour parler poliment. Moi, c'est ce qui m'a gêné dans cette saison 4. J'ai eu l'impression qu'on passait la barrière entre le génie, la virtuosité et la prétention, qui était fragile, mais qui est d'ailleurs fragile dans le personnage de Sherlock lui-même, et que là, la série franchissait ça, que du coup, des fois, je me disais, bon, il faudrait peut-être qu'ils se calment un peu, on a compris, ils sont super balèzes, ils sont super intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils me prennent un peu de haut. Constance, est-ce que t'as ressenti ça ou pas?
En fait, moi, j'ai eu l'impression de regarder une saison qui n'avait rien à voir avec les trois précédentes que j'avais vues. Autant j'avais bien aimé l'expérimentation de l'épisode de Noël, L'Effroyable Marié, qui remettait Sherlock au 19e siècle. Autant là, j'ai trouvé ça intéressant, comme je dirais conceptuel, qui est chez moi un compliment et un défaut. C'est-à-dire quand c'est conceptuel, j'ai trouvé ça merveilleux et imaginatif, mais j'ai pas accroché. Et après, moi, j'ai l'impression que vu que la série est de plus en plus lente, puisque c'est difficile de réunir tout le casting, les scénaristes, et qu'on a beaucoup d'années entre chaque saison, ils ont voulu faire une saison où il n'y avait pas forcément besoin de redémarrer plus tard. Enfin, c'est un peu comment mettre ta série sur un piédestal ou comment l'enterrer en grande pompe. Mais où est-ce qu'on va au-delà de ça? Je ne sais pas.
C'est vrai que la série a toujours eu, moi je trouve, ce problème. C'est-à-dire qu'elle est à la fois insupportable et brillante. Un peu comme un gamin qui serait vraiment génial. On dirait c'est fabuleux ce qu'il nous raconte, mais on a quand même envie de lui foutre une baffe pour qu'il se taise. Et c'est un peu ça depuis le début de la série. Ça joue là-dessus. Hein.
La rareté, on en parlait. Quel impact, quelle importance. Parce que c'est vrai que bon, moi, je pense que si on me servait 6 épisodes de Sherlock par an, peut-être que je m'en lasserais. Je sais pas. Est-ce que le fait de n'avoir que 3 épisodes comme ça, là, c'est quand même 3 ans. Alors, ceci étant dit, il y avait l'épisode spécial de Noël, L'Effroyable Marié, si je ne dis pas de bêtises, que moi, j'avais adoré, que j'avais trouvé absolument génial. Est-ce que cette rareté... pesons les pour et les contre, hein, mais ça peut être un avantage parce que ça laisse au scénariste le temps de vraiment se préparer, d'être vraiment prêt pour nous raconter les meilleures histoires. Ou est-ce que, et j'ai l'impression que c'est le cas sur cette dernière saison, ça crée une sorte de rupture qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est, que c'est difficile émotionnellement de se raccrocher à cette locomotive extrêmement chahutée qui est Sherlock.
Moi, j'ai beaucoup de mal. Plus c'est long, plus j'ai du mal à replonger dedans et à retrouver les sensations que j'avais eues dans les premières saisons. Mais après, en même temps, si c'était moins rare, j'imagine qu'on n'aurait pas des installations, des morceaux de 90 minutes.
Léo?
Arte, oui, c'est comme les fixes que prend Sherlock. Ça fait monter la demande, ça fait monter l'envie. Ça permet aussi de faire de jolies choses visuellement. Mais là, on va arriver à un moment où les emplois du temps de tout le monde ne vont pas concorder, vu que Martin Freeman et Benedict Cumberbatch commencent à devenir des superstars au cinéma. Ça va devenir un problème. Mais en même temps, cette rareté permettait de noyer poisson, enfin d'éviter de faire en sorte que les épisodes ne se ressemblent pas. Puisque on part de la série avec Jeremy Brett, enfin, au bout d'un moment tous les épisodes commencent à se ressembler, quoi. Mais ça permettait effectivement de noyer poisson.
Eric?
Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que le rythme était très bien comme ça, parce qu'en effet, on n'avait pas, parce que c'est assez puissant, on n'avait pas d'overdose en effet avec ce rythme.
Est-ce qu'on parle de série, mais c'est presque une suite d'unitaire. C'est vraiment une série. Ou c'est une série qui est dans un format qui aujourd'hui quand même pose problème, ou en tout cas, on parle de modernité, de réinvention, on est dans autre chose que ce qu'on connaît. Silence de mort dans la pièce.
Non, mais il y a quand même un lien entre les épisodes. Là, cette saison 4, on peut pas voir un épisode sans voir les autres. C'est-à-dire que les 3 épisodes sont complètement liés les uns avec les autres. Donc en effet, c'est que 3 épisodes, mais il y a quand même un lien entre chaque épisode.
Léo, tu parlais de Cumberbatch et de quel que soit, tu le prononces comment, Cumberbatch. Bah, tu vois, Cumberbatch, ça me semble bien comme ça. Et de Martin Freeman. On n'a pas parlé d'eux au début quand on a parlé des raisons de la. Mais en fait, ça fait presque de cette série une espèce de super série à méga star. Alors évidemment, on en voit de plus en plus aujourd'hui, mais on a l'impression que finalement, Sherlock, on le voit quand eux ils veulent bien le faire, quoi.
Bah oui, quand Cumberbatch ne fait pas Doctor Strange, et là, je pense que dans les années à venir, il va être très occupé. On parlait des raisons de,
ouais. Il va faire d'autres séries, quand même.
Il va faire d'autres séries aussi. Il va aussi des films. Mais on parlait d'une des raisons du succès. Bah, ça tient en 2 mots, enfin, 4 mots. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Enfin, il y a l'alchimie entre les deux. Et surtout,
ouais. Moi, je rajouterais que, pour le meilleur ou pour le pire, Sherlock a une communauté de fans très active sur le net, et quand même, ça joue beaucoup dans la popularité de la série. C'est-à-dire que Cumberbatch, il est très populaire parce que ses fans sont très actifs.
Voilà. Il y a eu d'ailleurs, c'était sur l'épisode spécial, qu'il y avait eu des problèmes parce que il y avait un système de sur Twitter, les fans devaient traquer le tournage et du coup il y avait plein de fuites de photos, etc., qui compromettaient le secret de l'histoire. C'est à la fois le bonheur de pouvoir avoir une grosse base de fans et la problématique que ça peut soulever. Une dernière question. En plus, tu as glissé ça, je crois, Eric, tout à l'heure, ni vu ni connu, je t'embrouille, que ça pourrait être la fin. ça pourrait être le dernier épisode, ce Final Problem. Alors on va encore une fois pas le spoiler, mais il y a eu des bruits qui disent que. Alors c'est plus que des bruits ou et dans ce cas-là que penser. Alors là sans spoiler, bon courage.
Bah il paraît oui que ça pourrait être la fin, même si c'est pas officiel. Que penser de la fin? Moi je la trouve très bien. Hein. Franchement cette fin, j'aime bien le côté complètement barré et en effet on met fin à quelque chose. Moi ça fait penser un peu aux prisonniers. Au final du prisonnier qui a été beaucoup,
controversé,
qui est controversé, beaucoup décrié à l'époque, que moi j'adore, que je trouve fabuleux et qui est complètement barré. Et là, j'ai retrouvé un peu ça en fait dans ce final de Sherlock.
Vous êtes d'accord?
Moi, franchement, si là, ça se termine là, ça me convient. Et après, donc, les producteurs ont un peu parlé de ça, ils ont dit l'idée c'est de montrer un Sherlock qui est entré dans le mythe, entré dans la légende. Et dans ces cas-là, c'est bien réussi. Après, moi, je pense que on voit bien avec Love Actually qu'il va y avoir une suite de 15 minutes. Je pense que Sherlock, on peut le revoir pour un épisode exceptionnel dans 2-3 ans ou pour un truc caritatif. À mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on les voit à Baker Street. Je pense qu'il y aura plus de rendez-vous de réguliers, mais qu'il y en ait un ou deux dans le futur. Ça me semble pas aberrant.
Et puis, c'est pas Lost non plus. C'est-à-dire que c'est pas une série dont on attend une fin. Où on se dit voilà, il faut une résolution finale, ça peut s'arrêter n'importe quand finalement.
Faut pas qu'il y ait de fin parce que Sherlock est immortel, faut qu'on puisse le réadapter ensuite.
The roads we walk have demons beneath. And yours have been waiting for a very long time.
You know why I'm here.
I'd like to hear you say it.
What is this? We can't do this.
Is this supposed to be a game?
Thought this was some kind of
what? Trick.
It's not a trick, it's a plan.
What's the very worst thing you can do to your very best friends? Tell them your darkest secret.
I love you.
Assez causé, mon cher Watson. Donnons la parole au public d'un épisode et j'arrête. Vous détestez Sherlock et vous vous êtes retenu de pousser des hurlements pendant notre débat. Vous pensez que la série peut durer 10 ans jusqu'en 2040. Donc, à vous de jouer. On vous écoute. Bonsoir.
Alors, j'ai une petite question. Sherlock a énormément de qualités, mais il y a un défaut que je lui trouve, mais pas forcément pour cette dernière saison, également pour les précédentes. J'ai un problème sur les dénouements, en règle générale. C'est-à-dire que la façon dont l'intrigue est construite, les personnages évoluent, est systématiquement excellente. Et puis, on a une attente qui monte, et le dénouement est très souvent décevant. Et c'est même, je dirais même que c'est un défaut que je retrouvais déjà chez Moffat, chez le Moffat de Doctor Who. Est-ce que vous ne voyez pas un problème de dramaturgie où la montée en puissance est trop longue, trop complexe, trop mise en scène, et que finalement, à la fin, on est un peu déçu par le dénouement?
Je commence.
Je vois ça dans les cliffhangers de chaque fin de saison, où c'est systématiquement, déjoué, dans l'épisode suivant. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Sherlock ne meurt pas. Sherlock est accusé d'un meurtre. Il revient peinard.
J'avais bien aimé la façon dont ils avaient joué avec sa mort dans les saisons précédentes. Oui, où il y avait tout ce côté un peu comique. Pourquoi, comment est-il mort? Enfin, ou pas, comment a-t-il survécu plutôt?
À la limite, la résolution, entre guillemets, la plus satisfaisante, c'était la fin de la saison 1 avec l'introduction de Moriarty.
Le plus simple encore,
introduire un personnage, mais le reste est un peu décevant.
Pour moi, c'est un problème global du polar. Hein. Enfin, après, là, je vais pas cracher sur un genre entier, mais combien de séries policières j'ai fini en me disant « Ah là là, dis donc, tout ce qui m'avait préparé, c'était vraiment pour une fin formidable. » C'est quand même extrêmement souvent que finalement, le plaisir du polar, c'est pas tant la résolution que l'enquête elle-même. Quoi.
C'est le chemin, parce que souvent, la résolution, une fois qu'on s'est farci 10-15 pistes ou 10 ou 15 fausses pistes, en regardant X épisodes, la fin semble toujours un peu décevante par rapport
comme
au voyage
sur
qu'on
la
a entrepris.
Ouais.
Et je pense que dans les polars, c'est plutôt le voyage qui compte que la destination. Et après, dans le cas de Sherlock, je pense que comme il est tellement brillant, on n'est pas amené à comprendre comment il arrive à son dénouement.
Eric, un dernier mot peut-être?
Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'illusion. Donc à la fin, l'illusion tombe à la fin de l'épisode. Pendant tout l'épisode, on nous en fait voir plein la vue, et puis à la fin le magicien relève son tour, donc c'est vrai que peut y avoir une petite déception à ce niveau-là.
Eh bien, refermons là-dessus ce 13e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que Sherlock saison 4 est à voir sur France 4 le jeudi soir. Merci à Constance Jamais du Figaro, Eric Bouge de Téléstar et Léo Soessanto de Plus de Séries. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio, à Jules Croc, comme toujours, aux manettes. Mais aussi, merci, on ne les oublie pas, à vous-même, au public de l'Antenne, ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci à vous. L'Association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec, on adore ça. La semaine prochaine, on se penche sur une problématique qui pose problème, la présence de grands noms du cinéma à la réalisation de séries. Viennent-ils en paix? Nous veulent-ils du bien? Savent-ils comment faire une série? On reviendra sur leur impact, leur réussite et leur raté. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.